Il est l'heure ?
Oui, il est l'heure.
Il est l'heure de parler d'économie, de patrimoine, d'épargne et d'investissement. Il est l'heure, un podcast du groupe aucoffre.com. La fausse monnaie est apparue quasiment en même temps que la monnaie officielle. Et depuis, le jeu du chat et de la souris n'a jamais cessé entre les émetteurs officiels de monnaie, les États et les faux-monnayeurs. Les premières fausses pièces étaient bien évidemment des pièces métalliques, notamment en or ou en argent. Les faussaires redoublaient d'ingéniosité pour tromper les commerçants et les consommateurs. Et pendant ce temps-là, les garants de la monnaie développaient des techniques toujours plus élaborées pour détecter la fausse monnaie et maintenir la confiance. C'est de cette histoire que nous allons parler aujourd'hui, Benjamin.
Oui, Sophie, on va parler trucs et astuces, chimie, physique, imagerie et analyse de la matière. On va rentrer dans un véritable cours de science au lycée. Mais avant cela, savez-vous quelle est la peine que vous risquez si vous êtes prise en train de faire de la fausse monnaie ?
Aujourd'hui ?
Oui, depuis toujours d'ailleurs.
Alors, j'imagine que ça a dû évoluer quand même entre le Moyen-Âge et maintenant.
Eh bien, assez peu, c'est toujours la peine maximale. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'écartèle plus, on n'ébouillante plus, mais pour émission de fausse monnaie en France en 2024, vous risquez 30 ans de réclusion criminelle. C'est la peine du plus grave des crimes. Cela montre combien les autorités et le législateur sont particulièrement attentifs ou tendus sur la fausse monnaie. Ils ont raison d'ailleurs, parce que sans la confiance dans la monnaie, c'est le chaos.
Mais si vous n'avez plus confiance dans une monnaie, comme l'euro par exemple, vous pouvez toujours avoir de l'or, c'est une valeur sûre.
Bien tenté. Mais si une pièce d'or ou même un lingot d'or est faux, qu'est-ce que vous faites ? Comme vous le disiez, le faux monnayage est une pratique ancestrale et permanente. On va voir avec Arnaud Manas, qui est docteur en histoire et en économie, il est aussi le directeur du service du patrimoine et des archives de la Banque de France, comment se déroule cette histoire de la fausse monnaie qui commence donc avec les premières monnaies en Libye, 5 siècles avant Jésus-Christ.
Les premières pièces en monnaie en Libye sont en électrum. L'électrum, c'est un alliage naturel d'or et d'argent. C'est-à-dire qu'on trouvait des pépites dans le Pactole, le fameux Pactole, puisque c'était un fleuve qui coulait donc en Asie mineure. Et on trouvait des pépites de cet alliage naturel d'or et d'argent. Alors, c'est environ 55% d'or, 45% d'argent. Et quoi de plus simple que de frapper, de mettre un coup de poinçon sur une pépite, alors d'un poids calibré, et de dire c'est de la monnaie. C'est comme ça, alors, en schématisant, parce qu'il y a beaucoup de théories, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en schématisant, c'est à peu près ça.
C'est l'époque de Crésus, ça.
Ah, ben c'est exactement, c'est Crésus. C'est Crésus, et c'est pour ça que aussi la toison d'or, c'est que les orpailleurs qui allaient récupérer donc ces pépites qui étaient charriées par le Pactole, ce fleuve, utilisaient des peaux de moutons, et d'où la toison d'or. Donc, après, très rapidement, on est venu à fondre des monnaies, c'est-à-dire qu'on a mélangé dans les proportions 55-45 l'or et l'argent, et puis, bien calibré, on frappait, et c'était la monnaie. Sauf que, petit problème, 55-45, comment vous fixez ? Alors, soit vous avez très confiance en celui qui les fait, mais déjà, l'or et l'argent, ce n'était pas du tout la même valeur. L'or valait entre 10 et 15 fois plus que l'argent.
Il y avait déjà le ratio de 15,5.
Voilà, c'est pas encore de 15,5, mais on était en tout cas en ratio au moins de 1 à 10, voire 1 à 12. Donc, toute la difficulté était là. Et ça a été à un tel point que rapidement, ils ont abandonné les monnaies en électrum, elles n'ont pas duré très longtemps, et on est arrivé à un système avec soit des monnaies complètement en or, soit des monnaies complètement en argent. Alors, comment faire des fausses pièces ou faire des... C'est tout simple. Il y a deux techniques où il y avait deux types de fausses pièces. D'abord, vous trichiez sur la loi, c'est-à-dire l'alliage. Dire que c'était de l'or très pur alors qu'il y avait un peu beaucoup d'argent ou de cuivre, c'était une première technique.
Sur le titre. Donc, jouer sur le titre.
Jouer sur le titre. là, ensuite, la deuxième chose, c'était jouer sur la quantité, c'est-à-dire que mettre un peu moins, un peu plus. La réponse était assez simple dans les deux cas, puisque pour la quantité, c'était le poids. À cette époque-là, dès cette époque-là, vous aviez des balances extrêmement précises, puisque en bricolant et avec du matériel de récupération, vous pouvez fabriquer vous-même une balance précise au milligramme près. Il suffit de mettre une longue tige, un fléau, etc. Et vous arrivez, donc on savait peser quasiment au centigramme, milligramme, voire centigramme des pièces. Donc ça, c'était assez facile de vérifier. Le trébuchet, c'était quelque chose qui était répandu chez les commerçants, donc vous pouviez voir que la pièce pesait bien le bon poids.
C'est notre expression trébuchante.
Trébuchante, exactement. Que on n'avait pas triché sur la quantité. Après, c'est sur la qualité. Alors, comment vérifier que l'or, que vous avez bien de l'or, et non pas un alliage d'or et d'argent, ou d'or, d'argent et de cuivre, etc. C'est là que intervient la pierre de touche, la fameuse pierre de touche, donc qui était appelée pierre lydienne aussi parce que les monnaies ont été inventées en Lydie, donc en Asie mineure. C'est tout simplement un bloc. Alors ça, c'est une pierre de touche synthétique, mais c'était un bloc d'une pierre noire et sur laquelle on allait tester, enfin faire une trace. D'une monnaie ou de n'importe quel objet d'or, donc on le grattait comme ça, et ensuite, et c'est là l'autre important, on avait des aiguilles ou un touchot, là c'est un touchot moderne, et juste à côté, on grattait, quand on pensait, on se dit, ah, ça va être peut-être du 22 carats, on faisait une autre touche, et ensuite, visuellement, on comparait les deux.
Donc c'est de la colorimétrie.
C'est de la colorimétrie. C'était de la colorimétrie pure. Et avec cette technique-là, un long entraînement, on arrivait à une différence à reconnaître au demi-carat près. C'est très important. Alors, par la suite, mais il ne faut pas le confondre, l'acide, ça n'interviendra qu'au 19e siècle, puisque à cette époque-là, on ne connaît pas encore les acides. Et donc, c'est une méthode purement colorimétrique, extrêmement efficace. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ne pas comparer directement la pièce et l'aiguille de référence? Pourquoi passer par l'intermédiaire de cette pierre de touche?
Il peut y avoir du plaqué, par exemple. Enfin, il peut y avoir une couche...
Pas du tout. C'est-à-dire que le plaqué, parce que si le plaqué est suffisamment épais, ça passera. En fait, c'est que la couleur d'une pièce d'or dépend essentiellement, enfin, dépend fondamentalement, de son état de surface. Vous pouvez avoir, si vous avez une pièce qui est très rugueuse, vous allez avoir des tas de petites aspérités et donc des multiples réflexions qui vont modifier la couleur. Et donc, ça va rendre le système, ça ne va pas pouvoir le voir. Donc, alors que si vous avez sur une pierre de touche deux traits qui sont faits sur la même pierre de touche avec les mêmes aspérités, etc., vous allez pouvoir comparer ce qui est comparable. D'où donc le système de la pierre de touche, qui permettait de voir si vous êtes à 23,5, 22 carats ou 24 carats. Dès le IVe siècle, il y a eu une menace en Grèce, c'est les pièces fourrées, mais je reviendrai après. Et donc les autorités publiques ont décidé de mettre en place un service public sur le forum et sur l'acropole, donc de mettre il y avait une personne qui était le dokimastes, qui était en charge d'authentifier toutes les pièces qu'on lui présentait et de cisailler les mauvaises. Alors, il était entre guillemets fonctionnaire de la cité d'Athènes. Il avait une forte incitation à ne pas se tromper, puisque là aussi les peines étaient assez lourdes, puisque une erreur c'était 50 coups de fouet. Mais la principale menace qui est intervenue, et c'est pour ça qu'on a créé le dokimastes, c'était les pièces fourrées. C'est-à-dire, les pièces fourrées, vous prenez, c'était surtout pour l'argent, vous prenez un alliage de cuivre, vous mettez du cuivre ou du bronze, et vous entourez d'une fine feuille d'argent. Alors, pour faire la feuille d'argent, c'est très simple, vous prenez une pièce authentique d'argent, vous la battez, vous l'écrasez et vous en faites un grand carré, vous récupérez une toute petite partie, et ensuite vous mettez que 1% d'argent et tout le reste, c'est du cuivre. Et donc vous avez, si c'est assez épais, ben, vous pouvez même, que ce soit de l'or ou de l'argent, à la pierre de touche, vous ne le voyez pas. Alors, il faut l'entailler. C'est pour ça que dans les pièces anciennes, vous voyez de temps en temps des petites entailles, puisqu'on testait avec un objet tranchant, on regardait s'il y avait bien, si à le cœur, il était bien en argent ou en or.
Et c'est aussi l'expression « mordre dans la pièce », ça revient alors, à ça ou c'est pas tout alors, à fait ça, les pirates alors, qui mordent leur pièce d'or ?
Ça, c'est après, mais j'y reviendrai. Donc, à cette époque-là, vous faites des entailles. Mais là aussi, il y a un risque, c'est vous faites les entailles, vous risquez d'avoir un client pas content et quelques coups de fouet.
Ah aussi.
Bon, donc, comment trouver la parade à ça ? Eh bien, tout simplement, là on a des témoignages, c'est en faisant sonner les pièces. Donc
on arrive sur le mot sonnante.
Exactement. Alors, il se trouve que les pièces de l'Antiquité ne sonnent pas du tout bien. Mais avec de l'entraînement, je suis sûr que le docteur pouvait se dire, l'essayeur pouvait connaître.
Alors, vous ne m'avez pas parlé des pirates et qui mordent ces pièces. Alors pourquoi, vous avez dit, on en reparlera après, mais alors pourquoi ils faisaient ça ?
Alors c'est une question. On peut se dire, mais pourquoi, comment mesurer, comment voir si une pièce est authentique ou pas ? Alors, on sait que plus l'or est pur, plus il est mou. Alors que plus il est allié avec un autre métal, comme de l'argent ou du cuivre, plus il va être dur. On sait que le pic de dureté, c'est à 75% ou 750 millièmes ou 18 carats. C'est-à-dire que c'est, en fait, quand on raisonne en carats ou en millièmes, c'est en masse. C'est-à-dire qu'on dit il y a 75% d'or, 25% d'argent en masse. Mais en termes atomiques, c'est-à-dire en nombre d'atomes, compte tenu de la différence de densité de l'or et de l'argent, 75% ou 18 carats, c'est exactement autant d'atomes d'or que d'argent. C'est-à-dire que ça fait grosso modo un atome d'or, un atome d'argent, etc. Et c'est ce qui rend cette hétérogénéité le plus dur possible, puisque l'argent pur sera plus pur, l'argent pur sera plus dur, et de même pour l'or. Donc, on se disait, on doit pouvoir mesurer. Est-ce qu'il y a une différence de dureté ? Alors, pour les pirates, on a tous en tête les films où le pirate à qui on remet une pièce en or va le porter à sa bouche et le mordre.
C'est du folklore.
C'est du Hollywood, on va dire. Parce que, déjà, j'imagine mal un pirate demander poliment en paiement. Ah, votre pièce n'est pas bonne, je vous l'arrange. Je pense que c'était pas en échange, je pense que c'était y piller et puis y réfléchissez après, déjà. Mais surtout, la question, on peut. Alors, j'ai fait des essais, donc là, ici, ce sont quatre, j'avais fait faire, parce que rien ne vaut l'expérimentation, c'est cinq disques, c'est de l'or pur, 24 carats. Ça, 23, ici, 21, 18 et 22. Donc, faire des expérimentations pour savoir. Alors, je ne vais pas les remordre ici.
On voit bien, et surtout, on
le tord comme ça. Tandis que celle-là, 18 carats, vous avez beaucoup plus de difficultés à le tordre. Donc, est-ce qu'on peut le voir ? Donc, c'est sûr qu'entre 24 et 18 carats, c'est très facile, mais il n'y a pas besoin de le mordre, il suffit de le plier à la main. Par contre, entre 24 et 23, ou 23 et 22, ou 24 et 21, vous ne le voyez pas en le mordant. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que cette image du pirate tordant la pièce dans sa bouche, ça vient du film de Charlie Chaplin, The Immigrant, où il y a une scène assez mythique, où on le voit, Charlie Chaplin a ramassé une fausse pièce en plomb, mais qui ne trompe personne, et il s'en sert pour payer dans un restaurant, et il y a le serveur qui l'a tort. Bon, je passe les détails. Et ça a été, il y a une telle force visuelle dans ce gag et dans ceci que ça a été repris dans le cinéma, dans tous les films de pirates, mais aussi dans la bande dessinée, puisque dans Tintin, dans un des Tintins, il y a la même chose, etc., etc.
Alors, vous adorez l'expérimentation, et je voudrais qu'on termine par cette expérimentation que vous avez conduite sur le sonnant. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous êtes allé vous avez voulu prouver, vous êtes parti de l'idée que on pourrait arriver à mesurer la fréquence hertzienne du son d'une pièce, et donc comme ça faire des sortes de signatures sonores de chaque pièce.
Tout à fait. Alors c'est très simple. Hein. N'importe qui peut le mesurer. Il suffit. Il y a des applications de physique. Il y a des logiciels sur smartphone, Fifox ou d'autres, qui permettent de tracer le spectre sonore, c'est-à-dire que d'une pièce ou de n'importe quel objet, la fréquence de résonance, puisque là on est dans la physique, c'est-à-dire que quand vous percutez un objet ou vous donnez une impulsion, ça va le mettre en vibration, et la vibration, et chaque objet a sa fréquence propre de résonance. Cette fréquence va dépendre de la dimension, de la taille, de l'épaisseur, de la composition du métal, de son élasticité, etc. Il y a tout un certain nombre de paramètres. Et donc, on a une belle formule qui n'est pas loin, toute chose étant égale par ailleurs, de celle des cloches. C'est-à-dire que les cloches aussi, c'est du métal que vous mettez en vibration, etc. Et donc, après, c'est confronter ces fréquences de vibration avec la réalité. Donc, j'ai fait des expériences en prenant avec les pièces de 20 francs, tout simplement, avec les pièces de 20 francs authentiques et les pièces de 20 francs aux platines. Parce que la question, c'était comment, au 19e siècle, faisait-on pour les authentifier. Or, je sais qu'à la Banque de France, puisque j'ai vu, il y avait une collection de pièces comme ça, et on apprenait aux agents de caisse, aux agents de recette, comment les authentifier. Et donc, c'était par le son. Il y a pas loin de 1000 Hz de fréquence, donc ça donne une bonne marge de manœuvre et de distinction entre la pièce en platine et la pièce en or. Et ensuite, est-ce qu'on peut le reconnaître? Et donc, parce que c'est quand même dans le très aigu, on doit être à 6 ou 7 000 Hz, donc on est dans les sons quand même très aigus, mais on peut le faire. Et n'importe qui, avec un peu d'entraînement, fait sonner sa pièce et peut arriver à le faire. Et pour calculer n'importe quelle pièce.
Il faut donc s'entraîner à écouter le son des pièces. Mais imaginez que vous n'avez pas l'oreille absolue, comme le commun des mortels, ou que le faussaire a trouvé un métal qui sonne comme l'or ou comme l'argent.
Eh bien, c'est là qu'on va poursuivre notre petit cours de physique. Après les fréquences sonores, on va s'intéresser à la densité, à la masse volumique d'un lingot ou d'une pièce d'or, mais aussi à l'analyse de sa composition. Pour nous éclairer sur les techniques modernes de détection de la fausse monnaie, j'ai demandé à Brice Degrange, qui est chargé de clientèle chez Aucoffre, de nous les expliquer.
Vous avez ce qu'on appelle vulgairement le bain. C'est-à-dire on va faire baigner le lingot d'un kilo dans de l'eau, retenue avec un fil, donc il faut complètement l'immerger, pour ensuite tout simplement qu'on puisse calculer la masse du lingot. Et en fonction de ça, donc la masse d'un lingot, c'est 19,3, et en fonction de ça, si on doit tourner autour de cette masse-là, donc toujours entièrement immergé, bien sûr, sinon c'est faussé, et on peut avoir des 19,3, on peut avoir des corrections, on va dire, mais sinon, c'est très concluant.
Bon, pour ceux qui n'ont pas de notion de physique, c'est finalement en fait, la différence entre un kilo de plume et un kilo d'or. Le kilo de plume prend plus de place que le kilo d'or.
Tout à fait ça.
Et alors, la problématique, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres métaux qui avaient la même densité, la même masse que l'or.
Exactement.
C'est le tungstène, notamment.
Ils ont été plus... Chaque fois, les faussaires sont toujours plus malins. Donc, il crée d'autres choses. Mais là, on a, si je peux le dire, je pense, l'arme ultime, ce qu'on appelle le spectromètre.
Ouais, alors je reviens juste sur mon histoire de tungstène, puisqu'on parle de lingots fourrés au tungstène.
Exactement, c'est fourré.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui remplaçaient un bout d'or par...
Ils vont surtout au cœur. Ils vont le fourrer au tungstène, donc ils vont remplir vraiment au cœur pour laisser... En fait, le lingot, c'est quand même assez épais. Donc ils vont le remplir au cœur, et qui représente à peu près 75% du lingot, pour laisser justement cette surface très impactante d'or toujours. Et donc, en gros, pour fausser justement cette masse-là, ou les tests qu'on peut avoir à la main, ou le sonnant, le trébuchant, ça sonne aussi très bien, du coup, quand c'est fourré comme ça.
Alors, les gens faisaient quoi? Ils le coupaient en deux avant d'avoir...
Les gens l'achetaient surtout, parce qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Donc, après, quand on a commencé à se rendre compte, on a essayé de faire des tests sur le bain aussi. Et puis, Dieu merci, la technologie a avancé. Donc, on est arrivé au spectromètre où là, pour le coup, il n'y a plus rien à faire.
Alors, lui, il fait quoi?
Alors, lui, c'est comme un gros microscope. En gros, vous allez mettre le lingot au milieu. Il va avoir un point rouge qui va arriver sans l'abîmer, hein. Et il va rentrer directement dans la masse en pourcentage. Il va vous le dire avec un petit ordinateur de quoi fait la pièce ou le lingot ou des choses comme ça. Et là, on ne peut pas tricher. Je vais reprendre l'exemple. Le 20 francs Napoléon Marianne Coq en frappinet, par exemple. Cette pièce-là, il y a de l'or, de l'argent et du cuivre. Et ben, le spectromètre, lui, va vous dire combien de pourcentage il y a d'or, combien de pourcentage il y a d'argent et combien il y a pourcentage d'or et de cuivre. Donc là, pour le coup, le lingot... Il va le constater tout de suite.
L'analyse avec le spectromètre,
oui.
Vous en faites pour tout, beaucoup. Ça fonctionne pour tous les.
C'est
tous
ça. Alors ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour les bijoux. Exactement. Voilà. Ça fonctionne pour les bijoux 18 carats, 9 carats, 14 carats. Le spectromètre va nous dire qu'il y a 75% d'or dans le bijou 18 carats. Ça fonctionne pour le plaqué aussi. Donc il faut l'utiliser. Souvent, du coup, même tout le temps, j'ai envie de dire, justement, parce que c'est vraiment l'outil qui est le plus performant pour déceler du plaqué.
Pour terminer ce podcast sur la fausse monnaie, vous allez nous parler d'une pièce d'or tout à fait officielle. Le Napoléon 20 francs Marianne Coq. Mais pourquoi celle-ci?
Alors, en fait, on va conclure sur ce qu'on pourrait appeler une vraie fausse pièce. C'est effectivement une pièce d'or frappée par les autorités françaises sous l'autorité de Monsieur Antoine Pinet. Nous sommes dans les années 50. Là où les choses se compliquent, c'est que ces pièces sont des refrappes à l'identique de Marianne Coq de 1907 à 1914. À l'identique, mais pas vraiment en fait. Explication de Jean-François Faure, PDG du groupe Au Coffre.
Donc là, on parle en fait de Napoléon 20 francs, Marianne Coq, millésimé 1907, 1914, mais qui ont une particularité. Ce sont des Napoléons qui n'ont pas été frappés. Justement, entre la période 1907 et 1914, ce sont des pièces qui ont été refrappées dans les années 50-60. Mais avec quelques particularités, c'est-à-dire que c'est plus les mêmes coulées d'or, c'est-à-dire que l'alliage, il est différent. Et là, le truc, il est un petit peu là, parce que ces pièces, finalement, on peut les distinguer déjà sur la couleur. Alors, les refrappes sont plutôt rougeâtres. Alors que les pièces originelles sont plutôt jaunes. Alors nous, on n'a jamais voulu justement se servir de la couleur comme argument clé pour dire ça c'est une refrappe, ça c'en est pas une. Parce qu'on s'imagine un client face à un inspecteur des impôts, imaginons qu'ils sont un peu daltoniens, enfin je caricature à peine, mais la couleur, pour moi c'est un peu juste quoi.
C'est subjectif.
C'est très subjectif, on dit, hein, les goûts, les couleurs, voilà, donc les pièces et les couleurs, c'est un peu pareil. Non, mais par contre, depuis, on a fait des gros progrès sur les spectromètres. Et nous, on avait déjà testé il y a quelques années avec un spectromètre qu'on avait en interne. Et on voyait qu'il y avait quelque chose qui pouvait susciter un sujet, en tout cas là-dessus. Et là, on en a acquis un récemment qui est beaucoup plus précis et qui acte vraiment la différence. C'est-à-dire que pour résumer, déjà pourquoi les pièces refrappes sont plutôt rouges, c'est parce qu'en fait, il y a un tout petit peu moins d'or. Là où sur les pièces originelles, on était sur un titrage, alors annoncé officiellement à 900 millième, en fait, on était plutôt à 902, voire 903. Ça, c'est une bonne surprise pour les anciennes. Fiscalement moins intéressante, mais sur le coup, avec un peu plus d'or. Alors que les refrappes, elles, sont soit strictement à 900, ça, c'est dans le meilleur des cas, voire 899, voire 898. Et donc, ça veut dire que c'est comblé par quoi ? Bah, par du cuivre, donc potentiellement un peu plus de cuivre. Mais il y a quand même cependant une bonne surprise, c'est que là où il n'y avait pas d'alliage avec de l'argent dans les pièces originelles, on en trouve des traces, alors 3 millièmes, dans les refrappes. Donc voilà, ces nouvelles pièces sont physiquement différentes parce que l'or n'est pas le même. Donc un titrage un peu plus faible, donc par définition un peu plus de cuivre et des traces d'argent métal. Et c'est ça qui crée cette couleur un peu rougeâtre et qu'aujourd'hui on arrive à détecter sur les spectromètres.
On connaît maintenant toutes les techniques pour détecter une fausse pièce d'or ou un faux lingot. Mais pour expertiser ces pièces ou ces bijoux, la meilleure attitude reste quand même de s'adresser à des professionnels. Il est l'heure de se quitter. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à le partager, à le liker sur les différentes plateformes. À bientôt !